Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour.
Novembre 1972.
Soyez donc les bienvenus à Télémidi, dont voici les titres.
Pour la toute première fois, à la télévision française, les actualités évoquent le Front National.
Dans la perspective des élections législatives en France, plusieurs mouvements d'extrême droite se sont regroupés. Et c'est ce Front National, comme il s'appelle, qui a tenu hier soir à la Mutualité à Paris son premier meeting.
À la tête de ce Front National, dès sa création, on trouve un ancien député poujadiste. Il a 44 ans, il s'appelle Jean-Marie Le Pen.
Je suis grand, assez athlétique, blond, je crois assez extraverti. J'ai un surnom, on m'appelle le Menhir. Je trouve que c'est un surnom qui me décrit assez bien. Une pierre levée, du granit debout, c'est un peu ça.
Après l'indépendance de l'Algérie,
vive l'Algérie indépendante !
En juillet 1962,
vive le peuple algérien !
L'extrême droite française a perdu son combat et elle est à nouveau réduite au silence. Donc, pendant une dizaine d'années, Jean-Marie Le Pen va naviguer à vue et il va même traverser un désert. Mais il prend bien soin d'entretenir ses réseaux, entre autres avec les néo-nazis et les nostalgiques de la France de Vichy.
Le maréchal Pétain vous parle.
Une stratégie qui va payer. Dans cet épisode, vous allez découvrir comment Jean-Marie Le Pen va s'imposer comme le leader incontesté de la droite radicale et xénophobe.
Alors aujourd'hui, Monsieur Le Pen, vous faites partie de la réalité de la société française. C'est un fait et c'est pourquoi je vous ai invité ce soir.
Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Jean-Marie Le Pen, l'obsession nationale. Troisième épisode, l'union fait le front.
La parole est à Monsieur Le Pen.
Je crois qu'on entre en politique comme on entrait autrefois dans les ordres, c'est-à-dire en fait poussé par une puissante vocation.
Jean-Marie Le Pen, vous êtes fasciste ?
Monsieur Le Pen, est-ce que vous considérez qu'il y a eu un génocide de juifs ?
Est-ce que vous vous considérez comme un démocrate ?
Allons, enfants de la patrie !
Les lettres que nous recevons en porte-témoignage, Monsieur Le Pen, vous faites peur.
Le récit débute le 22 août 1962, 10 ans. Avant la création du Front National. Ce soir d'été 1962, à la radio, le journaliste annonce une nouvelle qui sidère les Français.
Un attentat a été dirigé contre le général de Gaulle aujourd'hui en fin d'après-midi. Le président de la République, accompagné de Madame de Gaulle et de son gendre, le colonel de Boissieu, regagnait Colombey à l'issue du Conseil des ministres lorsque sa voiture a essuyé plusieurs rafales d'armes à feu qui ont brisé la vitre arrière et crevé deux pneus. Aucun des occupants de la voiture n'a été atteint. Un motocycliste de l'escorte a reçu 2 balles dans son casque, mais n'a pas été blessé.
C'est l'attentat du Petit Clamart. 187 balles en rafale. De Gaulle en sort indemne. Un vrai miracle. Le général de Gaulle est alors président de la République. Et il a été visé par des partisans de l'Algérie française, qui lui reprochent, entre autres, d'avoir reconnu l'indépendance de l'Algérie.
Je vous ai compris !
Un commando d'assassins aux sensibilités politiques très proches de celles de Jean-Marie Le Pen. Mais Le Pen ne basculera jamais dans la clandestinité ou le terrorisme. Il préférera toujours la politique. Cet attentat a frappé les esprits. Dans la foulée, en septembre, Charles de Gaulle a une idée en tête.
3,
et il s'adresse
2,
aux Français.
1, 0.
Françaises, Français, je vous demande tout simplement de décider que dorénavant, vous élirez votre président au suffrage universel.
Le président de la République française a clos aujourd'hui officiellement la campagne pour le référendum par une allocution radio-télévisée. Le général de Gaulle a tout d'abord rappelé l'enjeu de la consultation, élire dorénavant le président de la République au suffrage universel pour que la France ait à sa tête un véritable chef de l'État.
Il s'agit de décider si, après moi...
Charles de Gaulle, octobre 1962.
Et nul n'ignore les menaces qui pèsent sur ma vie, les futurs présidents auront à leur tour, grâce à l'investiture directe de la nation, le moyen et l'obligation de porter comme elle est cette charge si lourde.
Au référendum, le oui l'emporte avec 62%. Et désormais, jusqu'à nos jours, le président de la République française est élu au suffrage universel direct.
La séance est reprise.
À l'époque, Jean-Marie Le Pen est député de la droite parlementaire. Il s'est éloigné des poujadistes. Alors, quel regard porte-t-il sur cette réforme de la Constitution ?
J'avais compris que l'élection présidentielle au suffrage universel allait être la pièce maîtresse de la vie politique. J'y voyais le moyen de rassembler tous les débris du courant de la droite nationale qui avait volé en éclats. Les pieds noirs, les militaires, les indépendants, etc. Mon objectif était de fonder un grand parti de 100 000 adhérents.
Mais malgré son appétit politique, en novembre 1962, Le Pen n'est pas réélu à l'Assemblée nationale. Il perd son siège de député et il n'est plus grand-chose. Alors où en est-il sur l'échiquier politique ?
C'est un homme de l'après-Seconde Guerre mondiale des années 50 qui est à la fois un mélange très simple de refus du communisme, de refus des rouges. Hein.
L'historien Benjamin Stora.
Et en même temps, qui est certain que pour combattre, entre guillemets, le communisme, il faut avoir une doctrine sociale. Et c'est ce qui fait son originalité. Donc il est un nationaliste à cette époque-là, qui veut réconcilier l'extrême droite avec la classe ouvrière, ce que De Gaulle va réussir à faire. Mais De Gaulle réussira à le faire parce qu'il va capter cet électorat ouvrier, parce qu'il leur promet de faire revenir en France leurs enfants qui sont en Algérie. Ça, c'est fondamental. Ce qui fait la force du général de Gaulle à ce moment-là, par rapport à un homme comme Le Pen, c'est que de Gaulle, lui, a dit « les boys, je les ramène en France ». Les appeler, c'est la quille, ils reviendront. Et il a une immense popularité au fin fond des campagnes, au fin fond des usines. De Gaulle devient très, 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 très populaire et il marginalise la gauche, qui n'a pas su précisément aussi parler à cet électorat traditionnel, notamment sur la question du retour des appelés. 400 000 hommes en permanence, c'est-à-dire 1 500 000 hommes. Vous savez, tous les hommes qui sont nés entre 1932 et 1943 ont fait l'Algérie. C'est gigantesque. C'est gigantesque. Fermons cette parenthèse historique, mais elle est tout à fait indispensable parce que Jean-Marie Le Pen a cette intuition que, dans le fond, s'il faut reconstruire un courant politique nationaliste, ou nationalisme extrême ou d'extrême droite, eh bien, il faut parler aux classes populaires.
En 1963, Jean-Marie Le Pen n'est plus député. Il n'a pas d'emploi et il gamberge. Mais il décide de s'associer à un homme politique, Jean-Louis Tixier-Vignancourt.
Dans le cadre de la campagne pour l'élection présidentielle, ne laissez pas la presse, la radio, la télévision, ni les imbéciles décider pour vous. N'hésitez pas à vous informer par vous-même.
Qui, lui, va se présenter à la première élection présidentielle au suffrage universel, prévu en 1965.
Vous avez rendez-vous ce soir à 21h sous le chapiteau de la caravane de la volonté avec Tixier-Vignancourt, candidat de l'opposition nationale et libérale à la présidence de la République.
Alors Jean-Louis Tixier-Vignancourt, c'est une grande figure de l'extrême droite. C'est quelqu'un qui était un des ministres du gouvernement de Vichy, du maréchal Pétain.
Sous les yeux de M. Tixier-Vignancourt, représentant le gouvernement du maréchal, s'est accompli à Marseille, à l'heure où il s'accomplissait dans toutes les villes de France, un geste éloquent. Toute la jeunesse écoutait à la radio les consignes du chef. Les consignes de droiture, de travail, de dévouement qui ont fait la France et qui la referont.
Et puis c'est quelqu'un qui va être une grande figure du combat pour l'Algérie française et défenseur des combats nationalistes. C'est-à-dire il va être l'avocat de collaborateurs après la Seconde Guerre mondiale et des membres de l'Organisation de l'Armée secrète, par exemple, durant la guerre d'Algérie.
L'historien Nicolas Lebourg.
Ils ont déjà tenu des meetings ensemble durant les années 1950. Jean-Marie Le Pen lui-même s'est fait connaître fin des années 40, début années 50, en étant un agitateur nationaliste sur Paris. Et lui-même, à ce moment-là, est plus proche que durant le reste de sa vie de courants qui ressemblent à ceux de M. Tixé-Vignancourt, puisque Jean-Marie Le Pen diffuse un journal qui s'appelle Occident, qui est un journal qui a été fondé par un ancien militant fasciste, qui fait l'apologie du général Franco, du maréchal Pétain, bref, qui est plus dur idéologiquement que ce que sera Jean-Marie Le Pen durant le reste de sa vie.
Et alors, quel lien tisse à ce moment-là ces deux hommes au début des années 60?
Alors, la répartition entre Jean-Louis Tixé-Vignancourt et Jean-Marie Le Pen, elle est inégale. Jean-Louis Tixé-Vignancourt, c'est une grande figure que tout le monde connaît. Jean-Marie Le Pen, c'est un député bagarreur, c'est un militant qui a une capacité, une faconde, une façon de parler qui est extrêmement talentueuse, mais il ne boxe pas dans la même catégorie, très clairement.
En 1964, Jean-Marie Le Pen devient le directeur de campagne de Jean-Louis Tixier-Vignancourt.
Le Pen a dans l'idée que la campagne Tixier soit d'abord la revanche de 1962.
L'historien Olivier Dard.
Donc leur calcul, il est simple mais faux. Ils se disent, voilà, il y a 10% de gens qui ont voté contre les accords d'Évian en 62, donc ça nous fait déjà un socle de 10% et on va ensuite l'augmenter. Mais bon, ça va être plus compliqué que ça, puisque Tixier va obtenir juste un tout petit peu plus que 5% des voix. Mais Le Pen a dans l'idée que cette campagne Tixier puisse permettre, avec les comités Tixier-Vignancourt, avec tout ce qu'il essaye de mettre sur pied, un parti politique. On retrouve toujours cette idée chez Le Pen, un parti, ce qu'il n'a pas pu faire avec Poujade, il va essayer de le faire avec Tixier. Et donc, Tixier et Le Pen ont vu finalement l'assiette électorale qu'il projetait de dévorer se réduire au fil du temps. Et le soir donc, du premier tour des présidentielles de 65, en décembre 65, c'est une douche particulièrement glacée. C'est vraiment un choc à un peu plus de 5% des voix.
Au soir du premier tour, le général de Gaulle, lui aussi, est surpris. Il était persuadé d'être élu haut la main, sans second tour. Or, il est en ballottage. Car François Mitterrand, candidat unique à gauche, a fait une percée dans les urnes.
Je suis candidat contre le général de Gaulle, et contre lui seul. Car lui seul compte.
Et le candidat Tixier-Vignancourt lui a grignoté des voix à droite. Et malgré ses 5%, Monsieur TV n'est pas mécontent.
Le général de Gaulle se trouve dans une situation que je me suis employé à créer de toutes mes forces. Son prestige est irrémédiablement atteint. Il est en ballottage, figurez-vous. Et ce seul fait me comble de joie.
Précisons que pour le second tour, Le Pen et Tixier-Vignancourt ont appelé à voter pour Mitterrand. C'est dire leur haine du général de Gaulle.
Française, français.
Au-delà de la déroute dans les urnes, cette campagne Tixier-Vignancourt a plusieurs vertus pour Jean-Marie Le Pen.
Primo, c'est Jean-Marie Le Pen qui en fait anime la campagne. C'est lui qui tient les meetings.
Nicolas Lebourg.
Et il voit qu'il est un orateur exceptionnel. Et tout le monde le voit à ce moment-là. Tous les militants d'extrême droite se rendent bien compte qu'en fait, il y a quelqu'un ici qui sait tenir une campagne. Deuxio, la campagne du Tixier-Vignancourt, c'est Jean-Marie Le Pen qui la lance avec l'idée qu'il faut un candidat unique. C'est lui qui fédère les extrêmes droites. Et à l'intérieur des comités Tixier-Vignancourt, vous avez aussi bien des gens qui viennent des rangs néo-nazis que des gens qui sont des réactionnaires attachés à l'Algérie française, tout à fait modérés. C'est quelque chose qu'on va complètement retrouver au Front National. Et puis enfin, Jean-Marie Le Pen va toute sa vie, après l'élection de 1965, répéter la même chose. Ce 5% est évidemment une gigantesque déception. Il aurait dû être le candidat. Il est convaincu à ce moment-là que s'il avait été candidat, il aurait fait mieux que Tixier et que le seul qui peut en fait remettre l'extrême droite dans la vie politique française, c'est lui-même.
En décembre 1965, de Gaulle a été élu au suffrage universel.
Proclame Charles de Gaulle élu président de la République.
La France profite des Trente Glorieuses et Jean-Marie Le Pen, lui, entre dans son désert. Un peu perdu, il décide de créer avec Léon Gauthier un ancien Waffen-SS français, une société de relations publiques, la SERP.
La société s'appelle Société d'études et de relations publiques. Elle ne fera jamais de relations publiques, bien sûr.
Jean-Marie Le Pen, 2003.
Et là, l'idée me vient de faire des disques.
Il va en faire surtout une maison d'édition discographique.
L'historien Fabien Archambault.
Et cette maison d'édition discographique sera le lieu de rencontre et de sociabilité d'une partie de l'extrême droite française dans les années 60. Le principe de ces disques, qui sont des disques militants, le modèle en fait vient du Parti communiste. Alors le Parti communiste, qui est le premier parti de France à l'époque, qui fait régulièrement plus de 25% des voix aux élections, n'accède pas aux médias. La télévision et la radio d'État sont contrôlées, et donc il y a une impossibilité, en dehors des campagnes électorales, mais c'est très encadré, de faire passer son message politique. Et donc, dès les années 30, le Parti communiste français avait développé des maisons de disques qui, en gros, publiaient les grands discours de ses leaders. Donc, par exemple, on a Maurice Thorez ou Paul Vaillant-Couturier pour les élections municipales en 1935, donc qui était un moyen de contourner la censure d'État. Et l'extrême droite française, réduite au silence après 1962, va utiliser ce moyen-là, qui est en plus favorisé par l'apparition du disque vinyle et la démocratisation, à la fois la baisse du coût de fabrication des disques, mais aussi le développement de la société de consommation, notamment du tourne-disque. Alors ensuite, la SERP, c'est assez intéressant, c'est que ça devient une maison de disques où la musique est considérée comme un moyen de propagande politique. Il y a 172 disques produits, 72 c'est de la musique militaire et 20 disques de musique sacrée.
Disque de la SERP, 1968.
Horst Wessellied, hymne du Parti National Socialiste.
Hymne du Parti Nazi. Édité par Jean-Marie Le Pen.
Jean-Marie Le Pen, donc, qui est condamné en décembre 1968 pour apologie de crimes de guerre, donc après la publication de ce disque, Le Troisième Reich, voix et chant de la Révolution allemande. Où sur la pochette, qui n'était pas signée, vous aviez la montée vers le pouvoir d'Adolf Hitler et du Parti National Socialiste fut caractérisée par un puissant mouvement de masse, somme toute populaire et démocratique, puisqu'il triompha à la suite de consultations électorales régulières, circonstances généralement oubliées.
Pour mémoire, Adolf Hitler a été appelé au pouvoir par une partie de la bourgeoisie allemande, alors que le parti nazi était en recul dans les urnes.
Ah, Hitler. Ah, Hitler.
Par ailleurs, cette SERP dissimule une utilité bien précise.
La production de ces disques-là, c'est que ça devient une entreprise au carrefour de toutes les droites extrêmes françaises de la fin des années 60, du début des années 70.
Jean-Marie Le Pen dans Le Monde, 24 novembre 1969. Les jeunes ont besoin d'ordre et de pureté. À une époque où l'athéisme fait de redoutables progrès, le besoin ressurgit d'un ordre moral avec d'autant plus d'acuité que le relâchement des mœurs est grand. Dans cette optique, le SS, avec son uniforme, c'est un peu le prêtre avec sa soutane. Disparu dans une apocalypse de feu, de bombes et de sang, Le soldat de Hitler est devenu un martyr pour ces jeunes à la recherche d'une pureté, même si c'est celle du mal.
Ces mots de Jean-Marie Le Pen sont ahurissants. Mais à l'époque, ça passe inaperçu. À la fin des années 1960, il est devenu entrepreneur et c'est un jeune père de famille. Marine Le Pen est née le 5 août 1968. Et puis, que dire d'autre ?
Alors Jean-Marie Le Pen, à la fin des années 60, c'est quelqu'un qui a plutôt la vie bohème, quelqu'un qui a plutôt la vie parisienne.
Nicolas Lebourg.
C'est quelqu'un qui a fondé une maison de disques. Alors on rappelle toujours qu'il y avait un ancien collaborationniste, mais il y avait aussi un ancien député Algérie français. C'est un peu plus compliqué que ça. Il y a aussi Jean-Marie Le Pen, le rappelle toujours qu'il a aussi édité des chants communistes, pas que des chants nazis sur cette période-là de sa vie, qu'il y avait une édition de disques politiques plus large que ce qu'on a pu lui reprocher. Même si, bien évidemment, avoir des disques nazis dans son catalogue est un peu spécifique. Mais il est dans quelque chose, il a pris du recul par rapport à cette vie politique des années 60, et il se retrouve effectivement un petit peu comme le reste de l'extrême droite, très isolé, parce qu'il faut bien voir, c'est pas que Jean-Marie Le Pen. Aux législatives en 67, si vous prenez toutes les listes d'extrême droite, puisqu'il y en a plein de différentes, et que vous faites l'addition, vous êtes à moins de 1%, vous êtes à 0,97% de mémoire à l'échelle nationale. Donc vous voyez bien, on est au bout du désert de l'extrême droite.
Arrive alors l'automne 1972.
Front National, quelle est la signification de ce sigle ?
Jean-Marie Le Pen, très discrètement d'abord, repique à la politique.
Le Front National, c'est le rassemblement de l'opposition nationale aux élections législatives de 1973. C'est la volonté de regroupement de la droite sociale, populaire et nationale.
Front National !
Alors déjà, ce Front National apparaît sur ses statuts sous un autre nom.
L'historienne Valérie Higounet.
C'est-à-dire le Front National pour l'Unité Française. Alors comment ce tout petit parti va apparaître ? En fait, on est quand même quelques années après la Seconde Guerre mondiale. On est à quelques 25 ans, donc c'est rien. Et depuis cette fin de Seconde Guerre mondiale, il y a eu plusieurs tentatives par l'extrême droite de se fédérer. Et ces groupuscules ont disparu, sauf un qui a réémergé des cendres d'anciens et qui s'appelle Ordre Nouveau.
Alain Robert, lors d'un séminaire d'Ordre Nouveau, 1971. Nous sommes une force qui ne fait pas d'actions stupides. Nous devons désormais avoir des réactions non de groupuscules, mais de partis politiques.
Nous luttons pour notre idéal, Freidela, pour un ordre nouveau et impérial, Freidela.
Ce petit groupe politique qui s'appelle Ordre Nouveau, qui est vraiment un groupe xénophobe, hein, qui l'affiche sans aucun scrupule, se dit on va tous les rassembler dans un parti politique. Donc il va y avoir des anciens collaborateurs, des anciens Waffen-SS, des anciens de l'Algérie française, des branches beaucoup plus isolées, ce qu'on va appeler aussi par exemple des nationalistes révolutionnaires. Et toutes ces personnes vont trouver dans ce petit parti politique, pourquoi pas, une nouvelle raison de vivre puisque les autres ont échoué.
Le Front National, c'est donc l'union de groupuscules néo-nazis avec des nostalgiques de l'Algérie française.
Vive l'Algérie française !
Ce nouveau parti voit le jour le 5 octobre 1972. D'abord, première question, pourquoi ce nom, Front National ?
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la stratégie de Front National, le nom ne vient pas de nulle part. Le Front National, ça vient de 1934. Qu'est-ce qui se passe dans les années 30 ? L'extrême droite française, elle est complètement éclatée entre des petites formations. Vous faites la totalité l'addition de tous les militants, vous êtes à 5,5% de la population active. C'est ridicule pour l'extrême droite dans l'Europe de cette époque. À un moment, bien évidemment, quand les gens se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à peser politiquement, il y a une idée qui est, on pourrait créer une plateforme, un Front National, il serait une plateforme. Chacun continuera à militer dans son coin, les royalistes d'Action française apprenaient le roi, les militants fascistes apprenaient un état fasciste, mais il y aurait une plateforme minimale où on combattrait tous ensemble pour faire avancer quelques idées. Le travail français aux travailleurs français, etc. Et ça, c'est exactement la stratégie qui est reprise en 1912, et c'est pour ça que le nom est exactement repris également, c'est une référence au Front National de 1934.
C'est l'apogée des ligues fascistes en France. Des ligues ennemies de la République.
Du vent à la mort de la République.
Et contre lesquelles s'est créé le Front Populaire de Léon Blum.
Vive le Front Populaire !
Vive le Front Populaire !
1934, c'est Front National contre Front Populaire. Revenons en 1972 et intéressons-nous à l'architecte de cette union des extrêmes droites. Il s'appelle François Duprat.
Alors François Duprat, c'est une personnalité très emblématique de la reconstruction des extrêmes droites européennes. C'est quelqu'un qui va chercher à renouveler l'extrême droite. C'est donc à la fois un intellectuel et puis un militant très appliqué, un militant de tractage, un militant d'organisation, un militant de baston. Il y a une phrase de Charles Maurras qui est importante dans ce qu'est l'extrême droite française. Charles Maurras disait « Nous devons être intellectuels et violents ». François Duprat représente très bien ça. Il est à la fois intellectuel et violent.
Pendant deux jours, le mouvement Ordre Nouveau a organisé à Paris une exposition qui s'est achevée cet après-midi par un meeting. Et à l'issue de la réunion, François Duprat, membre du bureau politique, a exposé à Henri Pajot l'objectif immédiat de cette formation.
Nous sommes en train de préparer pour les élections de 1973 un Front National avec la quasi-totalité des personnalités de l'opposition nationale en vue de présenter un front unitaire à la fois contre les candidats gouvernementaux et les candidats à la gauche unie.
François Duprat est quelqu'un très important dans l'histoire du Front National. C'est un homme qui est né dans les années 40 et qui très vite, dans son parcours, s'engage, entre autres, vers le négationnisme. C'est-à-dire qu'à à peine 25 ans, c'est un prof d'histoire, ce n'est pas anecdotique, cette personne affirme que les Juifs n'ont jamais été exterminés. C'est pas anecdotique dans l'histoire du Front National. Donc il est très proche de Maurice Bardèche, qui est le premier négationniste français. Et cet homme est aussi un ancien d'Ordre Nouveau. Donc il va rentrer au Front National au début de son histoire. Et c'est lui d'ailleurs qui va introduire les thèses négationnistes au sein du parti.
Qui participe à ce Front National ?
Eh bien, François Brignot, qui est rédacteur en chef de Minute. Maurice Gaït, rédacteur en chef de Rivarol. Et Maurice Bardèche, directeur de Défense de l'Occident, seront les membres du comité d'initiative pour le Front National qui va être créé dès ce soir et qui publiera sa charte au début de janvier 72.
Alors François Duprat est quelqu'un qui est très profondément antisémite. Et comme ses autres amis politiques qui voient les choses ainsi, François Duprat considère que l'extermination des Juifs d'Europe est un mensonge qui permet à la fois à Israël de se légitimer, et puis aux démocraties capitalistes de pouvoir fustiger les extrêmes droites toujours, d'empêcher toute solution que lui qualifierait de nationale et populaire, que nous on qualifierait d'extrême droite, à cause de l'ombre de l'extermination des Juifs d'Europe. Donc pour lui, c'est un sujet qui est important, il faut porter le fer là, parce qu'il faut arriver à dire qu'en fait, l'extrême droite, ce n'est pas quelque chose qui vous renvoie directement au génocide. C'est pour lui, ou pour un autre grand intellectuel d'extrême droite de cette époque, Maurice Bardèche, une vraie question qui est de rendre le fascisme tolérable et d'essayer de dire qu'il y a un fasciste qui peut être, Maurice Bardèche le dit, modéré. Un fascisme qui ne serait pas évidemment exterminateur.
J'aimerais qu'on s'arrête un instant sur un nom qui a déjà été prononcé trois fois. Maurice Bardèche, un écrivain français, négationniste, mentor de François Duprat et invité chez Bernard Pivot en mars 1974.
Alors, Maurice Bardèche, vous êtes là parce que votre nom revient très souvent dans les deux livres sur le fascisme dont je viens de parler, parce que vous êtes le beau-frère de Brasillac Et puis enfin, vous avez publié il y a un peu plus de 20 ans maintenant un livre intitulé « Qu'est-ce que le fascisme ?» où vous déclariez d'entrée « Je suis un écrivain fasciste ». D'ailleurs, je voudrais vous demander maintenant, est-ce que vous êtes toujours un écrivain fasciste ?
Ça n'a pas changé. Vous savez, je suis stupidement entêté. Et je vais vous dire une chose qui choquera peut-être vos auditeurs. Le fascisme, pour nous, c'est pas l'ordre, le stupide ordre. C'est pas ça. C'était qu'il faisait disparaître cette espèce de guerre civile qui était notre histoire depuis 100 ans. C'est que il créait l'union de la générosité de la gauche avec les hiérarchies de la droite. En réalité, le fascisme, c'est la révolte des braves gens.
La révolte des braves gens, ça engendre le national-socialisme.
À mort les juifs !
Et les propos de Maurice Bardèche sont une insulte pour toutes nos familles qui ont souffert de la guerre, de l'occupation nazie et des déportations pendant 4 ans. François Duprat, donc, cofondateur du Front National avec Jean-Marie Le Pen, s'inscrit dans les pas de ce Maurice Bardèche.
François Duprat, lui, représente la tendance des nationalistes révolutionnaires, c'est-à-dire on est dans un courant d'extrême droite, hein, et lui va être un militant très actif, va créer d'ailleurs un groupe de presse très important, hein, au sein de l'extrême droite, avec plusieurs revues, et lui, un de ses objectifs, c'est tout simplement, j'allais dire, de diffuser le négationnisme en France et à l'étranger. C'est un des auteurs de brochures négationnistes, mais aussi il va, par l'intermédiaire donc de ce groupe de presse, diffuser des classiques négationnistes. Donc c'est vrai que Jean-Marie Le Pen embrasse quasiment tous ces courants idéologiques dans cette première décennie, et la provocation ne le gêne pas du tout. Et c'est un courant aussi très minoritaire, ce qui veut dire que qui sait que le Front National existe ? Qui sait que le Front National est négationniste à ce moment-là ? Il n'a aucune prise de parole publique à part dans ses meetings, il n'a aucune voix à la presse, à part la presse militante, donc à la limite c'est un petit groupe politique qui avance à tâtons et qu'on ne connaît pas. Donc pourquoi pas, entre guillemets, être négationniste, être antisémite, etc.
Reste une question. Comment Jean-Marie Le Pen, au milieu de tous ces groupuscules concurrents, est-il parvenu à devenir le président du Front National ?
Il va avoir du mal à s'imposer. On vient le chercher. Et d'autres ont refusé l'offre. Il faut qu'on cherche un leader de l'extrême droite, ce qui n'est pas si simple à l'époque. Et c'est un homme qui s'appelle François Brignot, un ancien milicien quand même, pour donner un peu la tonalité de cet homme.
La milice. Police paramilitaire de Vichy, créée par Pierre Laval en 1943.
François Brignot, qui dit « Moi, je connais quelqu'un qui est pas mal, qui s'appelle Jean-Marie Le Pen. » Et une des forces de Jean-Marie Le Pen à cette époque, c'est outre sa députation, il a été député poujadiste, donc il a une expérience politique, c'est qu'il a un énorme carnet d'adresses. Et on se dit que ça, c'est pas mal. Il a une carrure politique aussi. Et c'est un vrai militant politique. Pendant les 10 premières années, il s'impose très vite comme un tribun. Moi, je sais que j'ai rencontré plusieurs personnes qui m'expliquent que lors des premiers meetings de Jean-Marie Le Pen, ils sont bouche bée. Ils l'entendent et tout s'arrête quasiment. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Un des talents de Jean-Marie Le Pen, c'est ça.
Premier meeting du Front National, 7 novembre. 1972.
Abaisser le communisme, abaisser l'UDR, abaisser la majorité. Est-ce à dire pour autant que nous sommes prêts à voir venir et à prêter la main à l'arrivée au pouvoir du néo-front populaire ? Ce serait une folie.
Que dire de ce premier discours ? Nous avons consulté la sémiologue politique Cécile Alduit.
Premièrement, cette idée de renversement politique. Le Front National a pour vocation de balayer le système existant avec parfois des connotations proche tout de même de la révolution, du coup d'État, parce que tous les moyens sont presque bons. Et il faut se rappeler que le Front National a été fondé avec des groupuscules comme Ordre Nouveau qui ont été dissous pour le risque à l'ordre public qu'il représentait. Donc il y a une violence du discours. Il faut abattre l'ennemi, métaphoriquement et politiquement, pour représenter la seule opposition, on dirait aujourd'hui la seule alternance. Et ça, c'est une constante du discours du Front National, de s'opposer comme la seule véritable opposition. Et donc, il y aurait d'un côté les bons, guidés par le chef Le Pen, qui serait la vraie opposition et représenterait le vrai sursaut national, et de l'autre, les corrompus.
Drapeau français, c'est l'image de la France, c'est l'image de la patrie, c'est le résumé du sol, du peuple français, c'est aussi le symbole de la liberté. C'est en un mot, je ne sais pas, comme le visage d'une mère. Pour moi, en tout cas, c'est le plus beau du monde.
Jean-Marie Le Pen a toujours eu le souci de s'inscrire dans l'histoire. Paradoxalement, en convoquant un mythe, le mythe de la France éternelle, du redressement national, etc. Mais l'idée de la France, c'est une idée d'une continuité historique. Il faut s'inscrire dans la trace des ancêtres. On est héritier de ce legs historique de générations et de générations avant nous. Et il est temps de faire presque advenir cet héritage. Donc, il y a toujours cette attention à conserver un héritage, donc une permanence, et le conservatisme qui est inscrit dans l'idéologie du Front National, et en même temps de le faire advenir pour les générations futures.
Pour Jean-Marie Le Pen, la France, c'est la terre et les morts.
La France, c'est la terre et les morts. Et c'est pour ça que dans ce discours, pour être véritablement français, c'est ça le sous-texte, il faut avoir des ancêtres français. Donc quelque part, c'est le sang, mais vraiment au sens littéral, donc une définition biologique de la nationalité, et les ancêtres enterrés chez nous. Et donc finalement, cela exclut tout nouveau venu de la nationalité, de la communauté nationale.
La terre, elle, ne ment pas. Elle demeure votre recours.
À nouveau, Philippe Pétain, à nouveau, les mêmes obsessions.
Elle est la patrie elle-même. Un champ qui tombe en friche, c'est une portion de France qui meurt. Une jachère de nouveau emblavée, c'est une portion de France qui renaît.
Ah, ça fait du bien. C'est à la maison.
ORTF, 1973.
Pour vous, la famille, Jean-Marie Le Pen, c'est important.
Pour moi, c'est le plus important. C'est à la fois le cadre de la vie des hommes, c'est là où s'enseignent les règles de la vie, l'amour, le sacrifice, c'est la réalisation de sa vie, c'est, je pense, la cellule fondamentale, essentielle des sociétés humaines. Et je crois que c'est la base de notre civilisation.
La famille chrétienne, cellule naturelle de la France pour l'extrême droite, avec une figure essentielle, l'épouse, la mère de famille, en l'occurrence, Pierrette Le Pen.
Le rôle de Pierrette Le Pen, alors, la première chose en tout cas qui me vient à l'esprit,
Valérie Igounet.
C'est la médiatisation de Jean-Marie Le Pen. Je les vois très très bien, cette famille réunie dans leur ancien appartement, n'est pas encore à Montretout, très souriant, cette femme qui apporte un plateau avec le petit verre de Jean-Marie Le Pen. Cette femme de l'homme, je dis ça sciemment, parce qu'on est en plus dans un schéma, la femme n'est pas l'égale de l'homme, on peut dire à ce moment-là, ces petites têtes blondes hein, dont Marine Le Pen. Donc on a cette famille, j'allais dire, parfaite. Et Pierrette Le Pen est là aussi. Donc, elle va le soutenir. Elle va aussi, pourquoi pas, l'aider. Hein, parce qu'il faut savoir aussi, pour l'anecdote, que Jean-Marie Le Pen a un look minable. Donc, on peut dire qu'elle est là aussi. On va dire que ça peut être aussi une certaine coach.
Pierrette Lalanne a épousé Jean-Marie Le Pen en 1960. Avait-il déjà perdu un œil ? L'œil droit ou l'œil gauche ? On n'en sait rien. Une affaire très brumeuse.
Écoutez, vous saviez que j'avais eu l'œil blessé au cours d'une campagne électorale, et il était encore, hélas, malade mais vivant il y a quelques années, et nécessitait le port d'un bandeau à cause de vos terribles projecteurs. Depuis, hélas, il a été remplacé par une prothèse et je n'ai plus de bandeau. C'est moins romantique, mais c'est peut-être moins effrayant.
Lui dit que c'est une bagarre, donc ça fait partie du côté héroïque de Jean-Marie Le Pen. A priori, ce n'est pas ça. Après, je suis assez... aussi, moi, perdu dans les explications de Jean-Marie Le Pen, hein, puisque, comme vous dites, à un moment, c'est le gauche, à un moment, c'est le droit, à un moment, il n'en a plus. Bon, on sait que ça serait certainement dû tout simplement à des problèmes de santé et il y aurait une opération. Mais ça, je ne vous le confirme pas, quoi.
Cela dit, il en a beaucoup joué. Parce que
complètement, le bandeau, le pirate.
Le pirate, et c'est vrai que lors de cette création du Front National, on le voit beaucoup à la télévision, et il apparaît bandeau sur l'œil, ce qui est extrêmement à la fois inquiétant, c'est le croque-mitaine, ça fait un peu peur. Ce bandeau, il envoie plein de signaux déjà très... Bon, pas très serein en fait pour les gens en face de lui.
Oui, mais c'est ce qui plaît aussi pour les gens en face de lui, je parle des militants. Hein, et des personnes qui sont au sein du Front National. C'est ce qui plaît parce qu'on voit l'histoire d'un homme qui a une destinée hors norme. C'est un homme qui peut être inquiétant pour ses adversaires politiques. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à un moment, il va enlever son bandeau hein, et qu'il va se mettre un œil de verre, mais qui peut subjuguer justement cette communauté qu'il a autour de lui et qui, quand on les entend parler de Jean-Marie Le Pen, c'est l'homme en bandeau, mais c'est aussi cet homme qui fait dans des salles où il y a 20 personnes des meetings de folie et qui sont complètement bouche bée devant cet homme qui est un orateur né. Donc un orateur né avec un bandeau, c'est vrai qu'il a cette spécificité aussi.
Arrive ensuite l'année 1974 et son élection présidentielle.
J'entrerai dans cette campagne électorale, le home levé, mais dans l'intention de m'y battre.
Jean-Marie Le Pen sera le candidat du Front National, avec toute une panoplie, des affiches et un logo.
Vos affiches, par leur graphisme, par le slogan, ressemblent à celles des néofascistes italiens.
Je crois qu'il ne faut pas tirer de conclusion de ces graphismes identiques. Nous avons utilisé cette flamme tricolore parce qu'elle nous paraît la plus jolie qu'il y avait sur le marché graphique, si vous voulez.
Alors, c'est un copier-coller vraiment de la flamme aussi tricolore du MSI, le mouvement social italien, qui est un parti fasciste qui commence à avoir de bons résultats électoraux en Italie à l'époque et qui va financer le Front National récemment créé en lui fournissant notamment un logo gratuitement et aussi des affiches et même des subventions financières.
Cécile Alduy.
Donc cette flamme, elle représente en fait dans le parti fasciste MSI l'âme de Mussolini qui renaît éternellement de ses cendres. Donc elle a une dimension mythique, mystique même, qui est en filigrane dans le symbole. Lorsque le Front National reprend cette flamme, il y a d'un côté un manque de moyens criant qui fait qu'ils se servent de ce qui est disponible, et de l'autre, une allusion vraiment pour les personnes les plus au courant de cette mystique. Et ça, c'est typique, d'ailleurs, du Front National Général, c'est d'avoir toujours un double discours. C'est-à-dire qu'il y a un discours officiel où certains mots vont passer à peu près inaperçus, mais ce sont des mots codés qui vont être lus et décryptés par la base la plus fidèle et qui est imprégnée d'un discours d'extrême droite de base.
Est-ce que dans cette double lecture, cette flamme, qui arrive effectivement du MSI, elle peut être aussi l'incarnation de la flamme du soldat inconnu. C'est Verdun, et dans Maréchal, nous voilà, la chanson commence par « C'est une flamme sacrée qui monte du sol natal, une France enivrée te salue, Maréchal ».
La flamme n'est pas l'apanage du MSI, et au-delà de ses connotations au sein même de la politique italienne, c'est une excellente interprétation que vous proposez, il y a la flamme du soldat inconnu, mais il y a même aussi toute cette idée de ce cycle éternel de la France qui se relève et qui renaît de ses cendres. Donc cette flamme, elle est, enfin, du point de vue du sémiologue, elle évoque même la flamme de la patrie en général, c'est-à-dire cet amour pour la patrie, avec toutes les métaphores amoureuses qu'il y a derrière la flamme. Il faut brûler pour cet amour. Et également cette idée d'un mélange de violence et de régénérescence. La figure emblématique du Front National deviendra Jeanne d'Arc, brûlée sur le bûcher. Et cette idée du sacrifice aussi est présente dans La Flamme. On est capable d'aller jusqu'au sacrifice des saints si c'est nécessaire. Donc il y a énormément de connotations, je dirais culturelles, sous-jacentes et en filigrane, qui n'ont pas besoin d'être matérialisées ou explicitées, parce qu'elles jouent sur un imaginaire plutôt que sur un symbole à sens unique.
Premier candidat à la présidence de la République, Jean-Marie Le Pen, expliquait cet après-midi que sa décision n'était pas prématurée. Il me faut bien 2 ans pour me faire connaître, affirme Jean-Marie Le Pen, qui précise par ailleurs son programme au micro de Suzanne Gauthier.
ORTF, 1974.
Je serai le candidat de la droite sociale, populaire et nationale. Je défendrai un programme électoral qui se précisera, bien sûr, et sera officialisé au moment de la campagne, mais qui s'inspire très largement du programme que nous avons défendu aux élections législatives de mars 73, n'est-ce pas, et qui, justement, se rattache à cette droite sociale, nationale et populaire. Et nous croyons qu'il est possible de créer un vaste courant populaire autour de l'idée de la Renaissance française.
Alors Jean-Marie Le Pen a toujours dit qu'il représentait la droite nationale, sociale et populaire.
Nicolas Lebourg.
Dans les années 70, d'ailleurs, il dit le Front National est un front où moi je suis la droite nationale, sociale et populaire, mais où il y a dedans des gens d'extrême droite. Des gens qui se reconnaissent comme d'extrême droite, mais ça fait partie des unions de la famille. Chose amusante, vous aurez peut-être noté que durant la présidentielle de 2022, Madame Marine Le Pen disait que son projet était un projet national, social et populaire. Elle avait enlevé le mot droite, mais elle avait gardé le triptyque. Et je crois que ça fait assez sens. Mais Jean-Marie Le Pen, lui, se vit comme ça. Pour lui, l'extrême droite, c'est effectivement des gens comme François Duprat qui n'ont pas peur de se revendiquer comme fascistes. Ok, eux, c'est l'extrême droite. Mais il se vit, voilà, comme droite nationale, sociale et populaire.
Spot officiel de la campagne électorale 1974.
Françaises, Français, merci de m'accueillir chez vous ce soir et de m'accorder ces quelques minutes d'attention. Dans quelques jours, nous allons ensemble élire un président pour la République et choisir une politique pour la France. C'est pour nous tous un grand honneur et une grande responsabilité. Si vous pensez qu'il faut changer de politique, si vous souhaitez l'ordre dans la liberté, la paix sociale, la justice, si vous voulez un État fort et juste dans une France libre et fraternelle, alors votez Jean-Marie Le Pen, votez Salut Public.
Alors la première campagne de la présidentielle de Jean-Marie Le Pen se passe mal pour le résultat.
Valérie Igounet.
C'est-à-dire moins d'1%, hein, à peu près 0,74% des voix. Après, comment elle se passe? Tous le disent que Jean-Marie Le Pen milite, y croit, entre guillemets. Mais ce qui est certain, c'est que surtout, à l'issue de ce résultat, Jean-Marie Le Pen représente l'extrême droite française. Et c'est pas rien. C'est qui sait que l'histoire du Front National commence véritablement à cette élection, même s'il y en a eu d'autres avant, hein, les législatives, et que c'est lui qui préside un parti, mais c'est lui qui le représente. Donc il a une très faible visibilité, mais au sein de sa famille politique, elle est là. Je crois que la conséquence ultime de cette présidentielle, c'est ça.
Alors attention, 5, 4, 3, 2, 1, résultat.
La campagne électorale a été pour nous l'occasion de sortir du néant, de nous faire connaître et connaître des positions dans le fond que les Français ne connaissaient pas, qui sont celles de la droite sociale, populaire et nationale.
0,74% des suffrages. Ça fait à peu près 200 000 voix. Et on s'interroge beaucoup à l'époque pour savoir qui sont ces électeurs du Front National. La presse est certaine que ce sont des petits commerçants, reliquats du poujadisme. Or, c'est un cliché.
À ce moment-là, le petit commerce et artisanat, il vote plutôt à droite, pas à l'extrême droite.
La politiste Nona Mayer.
Il a peur, en fait, paradoxalement, du désordre. Et une partie, les artisans en particulier, et ceux qui sont d'origine ouvrière, votent pour la gauche. Et dans ces années-là, en fait, dans ces années 70-73, le vote de gauche progresse chez les petits commerçants artisans. Donc il faut sortir de l'idée reçue qui était très forte à l'époque, je pense à des articles du Nouvel Observateur qui voyaient l'électeur type de Jean-Marie Le Pen, c'est le petit commerçant. Eh bien non. Au début, en tout cas, non. Il faudra attendre 1981, la grande peur des socialo-communistes, pour que, progressivement, le Front National et Jean-Marie Le Pen commencent à attirer à eux les suffrages des petits commerçants artisans.
Vous l'avez évoqué, ces petits commerçants n'aiment pas le désordre. Il faut dire en effet qu'au début des années 70, l'extrême droite met du désordre dans la rue, elle fait des coups de force, elle est en colère, elle fait peur à la rue française.
Là, c'est à l'extrême droite, il y a les néo-nazis, mais ils se bagarrent au Quartier Latin avec l'extrême gauche. Et donc, c'est ces deux extrêmes que refuse la boutique. Pour aller vite, pour faire des affaires, il faut qu'il y ait du calme. C'est pas bon, le désordre, la police, les manifestations. Donc, il y a une aspiration. C'est, à l'époque, plutôt, ceux qui sont de droite sont conservateurs, mais sans excès. Et ceux qui votent à gauche, c'est parce qu'ils ont le sentiment d'être des petits. Il faut bien voir que la position de classe des petits commerçants, elle est très importante. Moi, j'ai travaillé dans deux quartiers. Un quartier bourgeois, la rue Saint-Dominique, un quartier plus populaire, la rue du Faubourg-Saint-Martin.
À Paris, hein, évidemment.
À Paris, les deux rues de Paris. Et rue du Saint-Dominique, les petits commerçants, ils avaient le sentiment que la bourgeoisie les snobait. Et elle ne les laissait pas entrer au royaume de la bourgeoisie. Et ceux-là, il y en a une partie qui votait à gauche, voire à l'extrême droite, déjà, royaliste, mais pour se démarquer. Tandis que rue du Faubourg-Saint-Martin, les personnes qui venaient boire les cafés au comptoir leur disaient qu'ils étaient des patrons et des capitalistes. Et ils disaient, mais c'est n'importe quoi. Et là, du coup, ils votaient à droite. Ils étaient rejetés à droite par leur clientèle. Donc il faut bien voir que cette position de classe est importante et que c'est un milieu divers. Et ils ne votent pas tout d'un bloc, gauche, droite ou Le Pen. Dès le début, Jean-Marie Le Pen fait des voix dans toutes les catégories de la population. Il n'y a pas, on ne le répétera jamais assez, il n'y a pas d'électeur type du Front National et de Jean-Marie Le Pen. Ça a été sa force dès l'origine.
0,74%, c'est très peu. C'est un désert. Qu'est-ce que ça raconte ?
Le néonazisme, l'antisémitisme, l'extrême droite ne fonctionnent pas en 1974.
Valérie Higounet.
Je pense que le souvenir de la Seconde Guerre mondiale est prégnant, est présent. On a peur. Les témoins commencent un tout petit peu à parler. On se rend compte vraiment de ce qui a pu se passer.
Mais quelle justice il y aura pour le crime des camps de la mort, pour cette danse macabre des Juifs qu'un jour on a jeté dans cet enfer, pour qu'ils y meurent.
Souvenez-vous que c'est à ce moment-là seulement qu'on prend conscience en France de la Shoah et de la collaboration du régime de Vichy. Dans l'après-guerre, les survivants se sont tus. La France voulait passer à autre chose. Et ce n'est qu'au début des années 70, grâce à des historiens et à des documentaires, qu'on commence à évoquer ce qui s'est réellement passé en France entre 1940 et 1944. Ça semble incroyable, mais c'est la réalité.
C'est pas rien, des camps d'extermination, c'est pas rien Adolf Hitler. Et on assimile encore à ce moment-là, extrême droite égale Adolf Hitler, égale le maréchal Pétain, égale pourquoi pas les camps d'extermination, égale le nazisme. Donc il n'y a pas d'avenir pour l'extrême droite à ce moment-là, c'est ça que ça raconte avant tout. Ils sont toujours dans leur tunnel.
En conclusion de ce troisième épisode, ayez en tête que pour sortir de ce tunnel, Jean-Marie Le Pen va comprendre qu'avec le choc pétrolier et la crise économique, il doit changer de logiciel.
Dans la mesure où la France va devoir subir une chute de son potentiel économique et de sa possibilité de consommation, il convient que les intérêts de nos nationaux soient préservés en priorité et que soient déjà prises les dispositions tendant à renvoyer dans leurs pays respectifs les travailleurs étrangers qui se révéleraient être chômeurs.
Jean-Marie Le Pen, opportuniste cynique de la crise économique, c'est l'horizon du prochain épisode.
La France au français ! La France au français !
Jean-Marie Le Pen, l'obsession nationale. Un récit de Philippe Collin, réalisé par Violaine Ballet. Lecture, Nicolas Lormeau, de la Comédie Française, et Marion Bierry. Assistance éditoriale, Irène Menahem. Documentation sonore, Frédéric Martin et Romain Couturier. Mixage, Benjamin Orgeret. Prochain épisode, le national populisme. Le Pen, l'obsession nationale, est un podcast original de France Inter.